Salut, c'est La Poulie.
Salut à tous.
Presse hebdomadaire.
Et de quoi on va vous parler aujourd'hui alors ?
Eh bien alors, moi j'ai une petite, sous forme de brève, une petite revue de contre-attaque avec trois petits articles que je vous proposerai si on a le temps
Ok. Et
après.
moi je vous parlerai d'animaux, si on a le temps pareil, parce qu'on a des invités aujourd'hui.
Voilà. Donc on reçoit un petit coup de musique tout de suite.
Un petit jingle ?
Allez, un petit jingle.
Allô ? Ah, allô ? Allô ?
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors du coup, là, dans l'agenda, c'est aussi l'objet de nos invités. Donc c'est le 26 janvier. Alors je dis la MJC Le Flambeau, mais c'est pas ça, c'est comment ça ? L'espace Le Flambeau à Reims, un événement proposé par la Luciole. Voilà. Et est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus, Cécile ?
Radio que je préfère en fait, j'adore. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici et je vais donc vous parler un petit peu de notre événement du 26 janvier. Donc, est-ce que vous voulez que je vous parle
ou de l'événement ?
Bon, tu peux déjà peut-être nous. Tu peux nous présenter déjà le collectif de la Luciole. On en a déjà parlé parce que c'est votre deuxième événement.
Ouais.
On avait parlé du premier, mais. On va te laisser présenter déjà le collectif, peut-être.
Ok. Alors, La Luciole, c'est un projet de café-librairie engagé sur Reims. C'est une association, en fait, qui est née le 16 février de l'année dernière, en 2023. Et pour l'instant, on n'a pas de local. Donc, on n'a pas de local parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc, on essaye de faire en sorte de se faire connaître. Et puis, cette année, on a décidé de quand même créer des événements, puisque le projet de café-librairie, c'est d'avoir à la fois une librairie alternative qui fait la promotion des maisons d'édition engagées et alternatives, qui n'ont pas forcément de visibilité dans les grandes librairies. Et c'est aussi le projet de créer un lieu ouvert, ouvert à tous, où on n'est pas forcément obligé de consommer, avec du café à prix libre, un endroit chaleureux, et en même temps un lieu où on peut organiser des événements, des rencontres, des réunions, voilà, des choses comme ça. Et donc là, on a commencé en novembre avec une pièce de théâtre qui s'appelait 17 octobre 61 avec Mamed Kaki. Donc on a fait ça aussi en partenariat avec la MJC, l'espace Le Flambeau, c'était super. On a fait la jauge était pleine et du coup on s'est fait un petit peu connaître. Et là on continue avec la projection d'un film, donc le 26 janvier, un film de Laurie de Andrade. Laurie, c'est une jeune femme qui a fait son film d'études, elle a fait un film documentaire. Et elle a fait son film d'études sur les mouvements sociaux à Reims pendant les manifestations contre les retraites. Et elle a suivi un groupe de militants. Et puis elle a regardé un peu comment ils s'organisaient, quelles difficultés ils avaient, etc. Et donc on fait cette projection. Et à l'issue de la projection, il y aura une table ronde où on va inviter tous les gens, toutes les organisations en fait, qui s'organisent à Reims pour lutter contre toutes les choses qui ne nous font pas plaisir. Quoi. Voilà.
Ok, donc ça c'est le 26 janvier, donc c'est à partir de 19h.
Ouais, c'est ça. À partir de 19h, on accueille les gens, il y aura une petite buvette, il y aura de quoi manger aussi. Tout ce qui est à manger sera à prix libre. Et la buvette, il y aura comme un bar, quoi, de la bière, du champagne, parce qu'on est à Reims. Et puis des jus de fruits, le tout chez des producteurs locaux, puisqu'on veut aussi avoir une vision un peu éthique de la consommation dans notre lieu.
Et votre premier événement, je pense qu'en tant que future librairie, vous aurez aussi une table... Pour vendre des livres, je pense.
Oui, tout à fait. Alors, pour ça, on est partenaire avec deux librairies. On a une grande sœur qui se trouve à Charleville-Mézières, c'est chez Josette, qui nous soutient, qui nous aide dans la construction de ce projet. La dernière fois, ils nous avaient prêté des livres. Ils nous permettent en fait d'être en relation avec ces maisons d'édition alternatives. C'est un peu compliqué pour nous parce que comme on n'a pas de lieu, on ne peut pas non plus avoir les mêmes fournitures qu'une librairie. Mais donc, ils nous aident pour ça. Et puis là, cette fois-ci, ça va être un peu nouveau. On va être en partenariat avec La Belle Image, qui va nous permettre aussi de disposer d'un fonds documentaire. Et on va mettre tous ces livres en évidence, à disposition. Donc, vous pouvez venir les acheter, mais vous pouvez aussi tout simplement venir les consulter, regarder les titres, voir ce qui se fait, tout ça sur l'organisation des luttes, la convergence des luttes, voilà. Et on aura aussi, tant je précise, on aura aussi une exposition de photos des Gilets jaunes qui a été faite par un collectif qui s'appelle Plein le dos et qui a fait une très belle exposition des dossards de Gilets jaunes avec tous les slogans qu'on a pu voir pendant les manifestations de Gilets jaunes. Donc on aura ça, on aura aussi un diaporama et un audiorama qui a été tourné pendant les manifestations de Gilets jaunes. Et puis bien sûr, on est ouvert au partenariat avec d'autres assos. S'il y en a qui veulent nous rejoindre pour faire, une table ou pour prendre la parole pendant le débat, n'hésitez pas, on a une page Facebook, La Luciole de Reims, et on est aussi sur Instagram. Alors, je précise aussi, je vous laisse parler un peu. Non ? Bon, ok. Alors, je précise aussi que pour promouvoir cet événement du 26 janvier, on va organiser des soupes populaires. Parce que ça nous semblait assez logique, comme on va parler beaucoup des Gilets jaunes et des gens qui se mobilisent pour essayer d'aller un petit peu mieux socialement déjà. On va organiser deux soupes populaires en partenariat avec la table lutonnaise au marché Luton et puis l'autre au marché Wilson. Donc ça sera jeudi et vendredi prochain. Donc là, vous pourrez nous retrouver déjà sur les tables newtonaises. Vous pouvez venir avec un bol, on distribuera la soupe qui nous sera aussi offerte en partenariat avec la famille Clénaud au Méneux qui va nous fournir les légumes. Voilà. Je pense que j'ai tout dit.
Et donc, tu n'es pas seul, parce que pour organiser ces soupes populaires, tu es aidé par Stéphane.
Oui, bonjour. Donc la table lutonnaise s'associe à cet événement, donc il sera unique, exceptionnel, puisque la table lutonnaise ne propose pas de plats préparés chauds, donc ça sera une nouveauté pour nous, mais ça sera justement pour ce côté exceptionnel pour promouvoir le film. Et donc je tiens à dire aussi que la table lutonnaise est un peu partie prenante de films documentaires, puisque comme on s'est rapproché d'un mouvement social qui s'appelle les Gilets jaunes, pour justement faire connaître et lutter contre la précarité alimentaire, puisque malgré qu'on soit présent depuis 2 ans et demi sur la place Luton, il y a encore des personnes qui ne nous connaissent pas, donc pour essayer de combler ces lacunes-là, je me suis dit, je vais en parler à ceux qui s'intéressent. Et donc, en fin de compte, on était pris dans le documentaire, et depuis cette date, il y a une personne qui vient issue de ce milieu-là, qui nous vient régulièrement, et qui est très assidue, très motivée pour justement lutter contre la précarité, contre la cause de la précarité alimentaire.
Le film de Laurie s'appelle All Clamors Are Beautiful. Donc, vous pouvez imaginer ce que signifient les initiales. Voilà, je vous laisse chercher.
Merci. Donc, je redonne toutes les dates dans l'ordre. Alors, le 18 et 19 à marché Luton et au marché Wilson, les soupes. Et le 26 janvier à 19h au Flambeau. La diffusion de All Clamors Are Beautiful, le documentaire, mais aussi plein d'autres choses que vous avez rappelées.
Je me permets d'apporter une précision, ça se passera la distribution de la soupe au niveau du Boulodrome, la place Luton, du marché Luton. Et sinon, écoutez, il y a des choses comme ça qui se font, des rencontres géniales, des passerelles, et du coup, la rencontre avec la Luciole, c'est propice à des collaborations futures intéressantes.
On vous souhaite à vos deux assos, à vos deux collectifs longue vie et bonne. On espère voir la Luciole ouvrir sous peu.
Sharpie in the PVC, picking food out of my teeth. you do if I were there? Pull on my synthetic hair. Where I feel the phantom pain. Masochism that I
On écoutait Grazia avec le titre Cheap.
Alors, et on se fait une petite revue de presse du journal Contre-Attaque. Ce matin, il n'y a que celui-là pour moi. Et donc, c'est parti. Finistère, tentative d'incendie d'une mosquée pendant la prière. Ce samedi 13 au petit matin, un homme au visage dissimulé s'est rendu devant la mosquée de Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix dans le Finistère. L'individu a versé un bidon d'essence sur l'entrée avant de déclencher un vif incendie et de s'enfuir. Concernant l'incendie à Morlaix, la couverture médiatique est quasi nulle, quelques articles de la presse locale et un tweet du ministre de l'Intérieur évoquant une simple dégradation. On ose imaginer si le lieu de culte d'un autre monothéisme, par exemple une synagogue ou une église, avait été incendié avec un bidon d'essence à l'heure de la prière pendant que les fidèles étaient réunis dedans. Voilà. Argent magique, priorité à la guerre. On apprend simultanément en ce début d'année 2024 que le gouvernement français achète 42 avions de guerre Rafale supplémentaires pour la somme de 5 milliards d'euros et que près de 2000 enfants sont à la rue en plein milieu de l'hiver alors qu'une vague de froid est en cours et que les services d'hébergement d'urgence sont saturés. Voilà. Ensuite, des nouvelles de notre ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra, millionnaire, héritière, cousine de plusieurs présentateurs télé et mariée à un grand patron, s'est péniblement justifiée le 12 janvier d'envoyer ses enfants dans une école privée d'extrême droite, tenue par des catholiques intégristes. Devant la presse, elle déclarait qu'elle avait été poussée à ce choix vu les paquets d'heures pas sérieusement remplacés et qu'avec son mari, elle en a eu marre et qu'ils étaient frustrés de la médiocrité de l'école publique. Bancal pour une ministre chargée de l'éducation, dont la mission est justement de permettre l'accès à l'école publique et gratuite pour tous les enfants. Le pire, c'est que tout est faux. Libération révèle que le fils mentionné par la ministre, Vincent, né en 2006, n'a passé qu'un semestre à l'école maternelle publique Littré dans le 6e arrondissement de Paris. Il y a été scolarisé 6 mois en petite section à partir du 2e trimestre de l'année scolaire 2008-2009, donc en janvier 2009. Ce que dit la ministre est archi faux, ça m'a horrifié, réagit son ancienne professeure, aujourd'hui à la retraite, en colère depuis les déclarations de la ministre. Voilà, donc tout va bien, quoi.
Oui, on ne sait pas trop si on doit rire ou...
Ouais, non, oui, ça ne devrait pas nous faire rire. On peut se mettre un petit peu de...
Et donc je vais vous parler de l'animal du mois. C'est CQFD du mois de ce mois-ci qui nous propose le kangourou. Pif, paf, vlan. Le kangourou est aux arts martiaux ce qu'Elisabeth Lévy est au débat de comptoir racisto-aviné. Un expert incontesté. Tu l'enquiquines, il te refait le nez façon cubiste. C'est ce qu'a pu vérifier un policier canadien, début décembre dernier. Après une cavale de 4 jours, ce marsupial évadé qui ne voulait pas rejoindre un zoo québécois a vendu chèrement sa peau quand la maréchaussée lui a mis la main au collet, distribuant les orions dans le visage d'un pandore local. Tarif, cerise sur le rocky, ce n'était pas un événement isolé, tant l'animal sait faire pleuvoir les nions si on le prive de sa liberté. Attention, il risque de vous faire une cravate, une clé de tête, prévenaient des experts dans un article du Guardian publié en septembre 2022. La raison de leur cri d'alarme, un Australien de 77 ans venait d'être envoyé ad patres par le kangourou gris qu'il avait adopté. Le considérer comme animal domestique, très mauvaise idée. Et l'article de citer le cas d'un marsupial surpris en train de tenter de noyer le chien d'un ex-policier. Rappelons que depuis une évasion réussie, des dizaines de kangourous vivent et prospèrent dans la forêt de Rambouillet, à quelques encablures de Paris. De là à imaginer que ces experts de la CAB rejoignent de prochains cortèges d'éther dans les rues de la capitale, il y a un pas que l'on franchit allègrement. Ils vont moins faire les malins, les matadors de la Bravem, quand une armée de bestioles bondissant au biceps de fer leur sauteront sur le rable. Go marsupial! Écoutez Snooper avec le titre Stretching, et je te laisse reprendre.
Alors, la Bravem dans ses œuvres, épisode 2 360 millions, enfin bref, c'est un épisode, ils sont bien trop nombreux. C'est trop bien la Bravem, tu peux te défouler et pas seulement sur les manifestants. Pif paf poum, tiens, dimanche 17 décembre à Paris, après l'expulsion de 200 ados exilés de leur lieu de vie, ils ont poursuivi certains d'entre eux, vroom vroom, et l'un d'eux s'est même offert un bonus en projetant violemment la tête d'un môme, en projetant violemment un môme la tête la première sur le bitume, paf paf, scène filmée par les bénévoles d'Utopia 56, le kiff. Devant le tollé sur les réseaux, le préfet a déclaré qu'une enquête administrative allait être diligentée. Le voltigeur aurait sobrement répondu « lol ». C'est dans la rubrique « En bref » du journal CQFD de ce mois-ci. Alors on continue. Dans tes dents, Big Pharma. Le jeudi 21 décembre, la cour d'appel de Paris a condamné le groupe pharmaceutique Servier dans l'affaire du Mediator. Massivement prescrit comme coupe-faim sous la pression des commerciaux du labo, le médicament est à l'origine de pathologies cardiaques ayant causé plus de 1000 morts. Verdict, plus de 9 millions d'amendes pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires et escroquerie, et 415 millions à rembourser à la Sécu. Respect à la pneumologue brestoise Irène Frachon qui se bat depuis 2017 contre vents et marées pour dénoncer les pratiques criminelles de l'industrie pharmaceutique et ses liens avec les milieux médicaux. Ce n'est qu'un début, rappelait-elle le 20 décembre sur France 3 Bretagne, les conflits d'intérêts existent toujours et restent la norme dans le monde du médico-pharmaceutique. Voilà. Voilà.
area before you come here. Lovely.
Free school dinners for the poor. Pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely.
We live in a pyramid. We live here.
Down, have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the nignogs get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home.
We did in a pyramid. We live here.
I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word.
We didn't appear out of city. We live here. We didn't appear out of city, mate. We fucking live here, you can't.
Voilà, on écoutait Bob Vilan, We Live Here.
Et puis tout de suite, on se fait un petit tour par la chronique high-tech de CQFD. Alors, l'ère des massacres intelligents. Mois après mois, high-tech défonce la technologie et ses 20 mirages. 14e épisode dédié à l'utilisation massive d'algorithmes par l'armée israélienne dans ses bombardements de la bande de Gaza. Dans les premières pages de Théorie du drone, Grégoire Chamaillou décrivait le quotidien d'opérateurs, de drones chasseurs-tueurs. Bossant le nez sur l'écran, dans une base du Nevada, évacuant l'ennui en se gavant de M&M's, avant de participer à l'assaut meurtrier d'un convoi de véhicules, enfants compris, dans les montagnes afghanes. Une scène au relent dystopique soulignant à quel point l'usage de tels engins de mort posait des questions éthiques considérables. Le philosophe posait ensuite les bases de sa recherche. Voilà en quoi pourrait consister la théorie d'une arme. Exposer ce que l'affaire Sienne implique. Chercher à savoir quels effets elle tend à produire sur ses utilisateurs, sur l'ennemi qui en est la cible et sur la forme même de leur rapport. 10 ans plus tard, ces questions ressurgissent. Depuis qu'elle a lancé sa campagne d'intenses bombardements sur la bande de Gaza en réponse aux attaques du Hamas le 7 octobre et à leur cortège d'abominations, l'armée israélienne ne s'embarrasse pas de précautions humanitaires. Au langage désignant l'ennemi, des animaux humains répond la sauvagerie de la destruction enclenchée, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles considérées comme des pertes collatérales acceptables. Plus 972, un média en ligne israélien indépendant, a récemment sorti une longue et édifiante enquête détaillant la manière dont Tsahal s'appuie sur un programme algorithmique baptisé Hasbora, l'évangile en hébreu, pour désigner les proies des bombes. Si les responsables israéliens avaient déjà proclamé début novembre utiliser cet agrégat d'intelligence artificielle pour produire des cibles à rythme rapide, l'enquête dévoile des détails sordides de cette automatisation de la mise à mort, où l'humain n'intervient que rapidement, en dernier recours, ainsi que l'explique un militaire. Nous préparons les cibles automatiquement, avec une liste de contrôles, c'est vraiment comme une usine. Nous sommes jugés en fonction du nombre de cibles que nous parvenons à générer. Les cibles, ainsi produites à la chaîne, sont censées être des responsables du Hamas, mais la plupart sont subalternes. Qu'elles vivent dans des résidences ou immeubles n'empêche pas les frappes. Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave, résume à plus 972 une source militaire. Rappel, la majorité des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants. Ici comme ailleurs, l'intelligence artificielle n'est qu'un prolongement de l'humain. Une manière de le rendre plus efficace dans la destruction. mais la question posée plus haut par Chamaillou s'impose. Que veut dire faire sienne une telle technologie? Et si l'on cherche à savoir quels effets elle tend à produire sur ses utilisateurs, sur l'ennemi qui en est la cible et sur la forme même de leur rapport, une première réponse semble évidente, déshumaniser encore davantage des victimes, considérées comme des agrégats de métadonnées, chiffres sur un écran pour ses utilisateurs. Quant à l'ennemi, comme dans le cas du drone, il s'agit de lui faire savoir qu'un œil est toujours dirigé sur lui, susceptible de le pulvériser à chaque instant, mais cela, il est fort probable que les Palestiniens et Palestiniennes vivant à Gaza le savent depuis fort longtemps. Un article d'Emilien Bernard.
Et je crois qu'il est temps de se dire au revoir, donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Prenez soin de vous et longue vie à la Luciole.
Et salut. Tout de suite, c'est Emo dans le Big Bang.
Dans le Big Bang.